Alors, je ne sais pas si vous connaissez Yasser Qadi, qui est un grand prédicateur dans le monde anglo-saxon, mais il a dit une chose qui me paraît importante, c'est que aujourd'hui, un des plus grands challenges auxquels fait face la communauté musulmane, en tout cas dans le champ scientifique, c'est la théorie de l'évolution. Et c'est vrai que c'est un sujet assez délicat sur lequel on est mal à l'aise. Je reçois d'ailleurs en message privé notamment pas mal de questions à propos de ce sujet. Et donc, je pense que c'est important d'en parler. C'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, tout de suite. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureux de vous retrouver sur ces petits podcasts de Telegram sur lesquels je suis heureux de voilà, vous livrer quelques réflexions, quelques développements à propos des questions qui touchent la communauté musulmane. Et aujourd'hui, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau parce que, comme je vous le disais, la théorie de l'évolution, c'est un sujet sur lequel souvent les musulmans, voilà, ont des incompréhensions, des malentendus, et certains parfois même quittent le giron de l'islam, sous prétexte notamment la théorie de l'évolution et le fait qu'elle contredirait les enseignements de l'islam. C'est d'ailleurs quelque chose que les athées, les scientistes ont bien compris puisque, vous l'avez peut-être remarqué, mais ils ne se privent pas d'utiliser cette théorie, de l'instrumentaliser pour, contre-attaquer, attaquer même, ridiculiser les chrétiens à l'époque, mais aujourd'hui largement contre les musulmans. Et d'ailleurs, j'ai envie de commencer un petit peu ce petit podcast par trois épisodes de ma vie, trois anecdotes que je tire de mon parcours personnel pour illustrer à quel point finalement il y a une instrumentalisation par les scientistes matérialistes, athées, appelez-les comme vous voulez, de la théorie de l'évolution. Le premier épisode, c'est alors que j'étais au lycée, c'était la première fois qu'on allait aborder la théorie de l'évolution au cours de biologie. Et la prof introduit le cours de manière assez agressive en disant qu'il n'y aurait pas de discussion possible. La théorie de l'évolution est une vérité avérée, qu'elle ne supporte plus les élèves qui discutent et qui veulent remettre en question certains éléments de la théorie de l'évolution. Et en fait, j'étais le seul élève musulman de la classe. Et donc, je me suis senti visé et ça donnait le ton directement, un ton qu'elle n'a pas abandonné durant tout le cours. Donc, ça, c'était la première anecdote. La deuxième anecdote, c'était lorsque j'étais à la fac de bio-ingénierie. Donc, j'ai commencé avant de faire des sciences politiques. J'ai fait 2 années en faculté de bio-ingénierie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets un petit peu de parler de la théorie de l'évolution. C'est parce que je l'ai longuement étudiée dans plusieurs cours à la faculté de bio-ingénierie, mais pas que, à la faculté de médecine également. Et donc, on avait un examen oral de biologie et la prof me pose une question bonus comme ça, après avoir fait les questions qui m'étaient attribuées. La prof me regarde en face et me dit voilà, je te propose une question bonus, donne-moi à ton avis quels sont les 2 ou 3 arguments les plus convaincants pour la théorie de l'évolution. Et donc je me suis retrouvé un petit peu acculé, un petit peu coincé et surtout une forme d'humiliation parce que c'était clairement parce que je suis musulman qu'elle m'avait posé la question. Et le troisième épisode, on va dire, c'était lors d'un cursus d'agrégation. J'avais débuté un cursus d'agrégation que j'ai pas achevé. Et durant ce cursus d'agrégation, il y avait des thématiques liées ben, à la façon de donner cours et les enjeux auxquels peuvent faire face les professeurs. Et durant ce cours, c'était notamment il y avait le professeur de didactique de biologie. Et il y avait, donc je précise que c'était à l'Université libre de Bruxelles, hein, qui a quand même aussi un passif, on va dire, assez évident dans la libre pensée et la laïcité, voire la laïcité agressive. Et ça se sentait parce que les professeurs qui étaient présents, soit les professeurs qui donnaient le cours d'agrégation, soit les futurs professeurs qui allaient donner cours, il y avait vraiment une image, voilà, on va être en face à des publics largement musulmans, notamment dans les écoles bruxelloises, et il nous faut des armes idéologiques pour bien qu'ils comprennent que la théorie de l'évolution est vraie. Donc la théorie de l'évolution, c'est pas juste un enjeu scientifique, il y a un enjeu idéologique derrière. Et on voit qu'il y a une conflictualité. Il y a véritablement une tension entre, d'une part, ceux qui veulent défendre cette théorie de l'évolution, pas tellement pour des intérêts épistémologiques, mais presque pour des intérêts idéologiques, et d'autre part, le public croyant, notamment et en l'occurrence musulman, qui veut se blinder face à ça et qui veut répondre à ça. Et donc, il y a 2 choses à dire sur cette conflictualité. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais notez bien que dans ce petit podcast, on n'aura pas le temps de tout traiter, malheureusement, mais ce sera à l'occasion d'autres émissions ou même je prévois un cours sur ce sujet, Inch'Allah. Donc 2 choses à dire sur cette conflictualité sous forme de deux problèmes qui sont liés l'un à l'autre. Et notez que le but de ce vocal, finalement, ce sera d'arriver à 2 conclusions sous forme de solutions à ces 2 problèmes. Le premier problème, c'est quoi? C'est que cette opposition entre 2 camps, entre le camp de ceux qui veulent défendre la théorie de l'évolution et ceux qui veulent s'en défendre. Ben, cette opposition, elle donne l'impression que ceux qui étudient la nature, ceux qui étudient la science, quand ils découvrent quelque chose, quand ils lèvent le voile sur quelque chose qui était un mystère auparavant, c'est comme s'ils restreignaient, c'est comme s'ils diminuaient le pouvoir de Dieu. C'est comme s'ils marquaient des points contre les croyants. Des croyants qui peuvent du coup développer un sentiment de malaise, de complexe, d'inconfort, voire de doute, voire de mécréance. Hein, ce sont des exemples que je connais. On peut résumer ce problème par s'il y a du mystère, il y a Dieu. Si on démystifie le mystère, c'est comme si on diminuait la probabilité de l'hypothèse Dieu. Voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème est lié au premier, c'est que vu que ce face-à-face tourne depuis quelques siècles, en apparence du moins, que ce face-à-face tourne à l'avantage des scientifiques, et vu que ça nous met en position de complexe, on va adopter une posture défensive, une posture qui nous amène à faire des raccourcis, à manquer de lucidité, une posture dans laquelle on essaie toujours de contre-attaquer. On ne produit rien, on est dans une position attentiste, on attend de voir ce que les scientifiques découvrent et on essaye de modifier notre argumentaire pour coller. Et donc, on va faire feu de tout bois, de tout argument, tout ce qui est possible de mobiliser, on va l'utiliser pour se défendre, pour contre-attaquer ce qui peut nous arriver. Vers des impasses et vers des incohérences, comme on va le voir tout de suite. Alors, il y a une chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais insister, qui est véritablement importante, c'est que cette posture défensive, à la base, elle n'est pas de nous. Elle ne vient pas de la communauté musulmane. C'est lié à une histoire européenne, et c'est les chrétiens qui l'ont adoptée en premier lieu. Cette posture défensive, elle est liée à la guerre qu'il y a eu entre le monde de l'Église d'une part et le monde scientifique d'une part. Et je ne veux pas faire le détail de cette guerre, de cette bataille, de ces deux camps. Vous savez qu'il y a un événement emblématique, c'est quoi ? C'est le procès de Galilée. Galilée qui pensait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, l'Église qui pensait que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et finalement, Galilée a eu raison, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais donc, l'Église a dû faire marche arrière et c'est un petit peu ridiculisé. Mais on va insister quand même sur quelques éléments essentiels de cette guerre pour comprendre ce sujet à la théorie de l'évolution. Donc le problème, c'est quoi ? C'est que l'Église, comme autorité, elle s'arroge le droit de dire ce qui est vrai et faux, même dans des domaines scientifiques. Elle s'arroge le droit de trancher des désaccords scientifiques. Par ailleurs, l'Église se présente comme infaillible. Ça fait partie du dogme catholique notamment, mais pas que catholique. Dans l'Église orthodoxe, il y a aussi cette forme de dogme, c'est l'infaillibilité de l'Église. Et puis maintenant, on a même également l'infaillibilité pontificale, l'infaillibilité du pape. Donc, par ailleurs, l'Église elle essaie de faire des liens avec des découvertes scientifiques et des points de dogme. Parfois, il y a une découverte scientifique ou une hypothèse scientifique et l'Église se jette dessus pour dire « Ah, ça prouve tel ou tel point de dogme ». Vous voyez bien que ça peut créer des problèmes si jamais on remarque que l'Église s'est lourdement trompée. Que doit-on en déduire ? Que l'Église n'est pas si infaillible que ça ? Que ce point de dogme qui était relié à cette hypothèse scientifique, elle n'est pas si fondée que ça ? Donc, ça s'est passé avec le problème de la planète Terre, est-ce qu'elle est le centre de l'univers ou pas ? Et aujourd'hui, l'Église a dû faire marche arrière sur ce sujet-là. Et au passage, il y a eu quelques malheureuses personnes qui ont été brûlées sur le bûcher en place publique. Mais on va prendre un autre sujet que celui de la Terre et des astres. On va prendre quelque chose qui est plus en rapport avec le thème d'aujourd'hui, qui est la théorie de l'évolution. Donc, on va pas parler astres et planètes, mais on va parler de la nature de la vie et de la biologie. Et donc, on va commencer par un constat de base, c'est que d'apparence, tout est miraculeux dans la vie. La reproduction des vivants, l'existence d'espèces différentes, le fait qu'en été apparaissent des animaux qu'on ne voyait pas en hiver, ça c'était pendant longtemps un mystère. Bref, c'est miraculeux, puisque c'est mystérieux, ça veut dire que Dieu est derrière tout ça. Mais voilà, vous connaissez la chanson, la Renaissance, les scientifiques, ils découvrent des choses d'ailleurs. Notons que beaucoup d'avancées scientifiques de la Renaissance, en fait, ont été commencées par les médecins et les scientifiques dans, on va dire, le monde arabo-musulman, le monde arabo-musulman qui englobe l'Andalousie, la Perse, etc. Mais donc, les scientifiques, les médecins vont commencer à étudier anatomiquement les animaux et même les humains, d'ailleurs, et ils comprennent que, certes, les organismes vivants, c'est très complexe, c'est quelque chose d'assez mystérieux, en fait, que quand t'ouvres la machine, tu regardes à l'intérieur, et tu étudies les organes, il y a quelques règles, quelques lois qui font de ces corps, certes des objets complexes, mais des objets scientifiques, comme d'autres objets, comme si j'étudiais un caillou, comme si j'étudiais une montagne, comme si j'étudiais l'eau, ou la chimie, ou le plomb, je peux étudier le corps vivant, et je découvre par exemple que la forme des organes nous dit quelque chose sur la fonction des organes. Et donc on peut l'étudier finalement. Et ça, philosophiquement, le sommet philosophique de ça, c'est en 1637, lorsque Descartes sort son livre sur la méthode, Discours sur la méthode, où il propose la thèse philosophique de l'animal-machine. En gros, De la même façon que lorsque vous ouvrez une horloge, vous découvrez le mécanisme qui est derrière et vous comprenez que le fait qu'elle donne l'heure, c'est pas si magique que ça. Ça a l'air magique pour une personne extérieure, mais c'est pas si magique. En fait, c'est juste des engrenages qui tournent les uns avec les autres avec une complexité, mais avec quelque chose de mécanique. Bah, de la même façon, lorsqu'on ouvre un animal et qu'on regarde à l'intérieur, l'animal, il est tout à fait mécanique. Donc, en fait, il y a une partie du mystère de la vie qui est dévoilée, ce qui met en difficulté certains arguments de l'Église. Alors à ce moment-là, certains chrétiens vont être acculés et ils vont devoir essayer de trouver d'autres artifices argumentatifs et on va invoquer notamment le vitalisme. Alors sachez que je simplifie beaucoup le vitalisme, c'est plus complexe que ce que je vais dire par là, mais pour vulgariser, je suis obligé de tailler dans le vif et de vous présenter les choses de manière progressive et linéaire, même si dans la réalité c'est plus complexe que ça. Donc digression à part, les chrétiens vont invoquer quoi ? Ils vont invoquer le vitalisme. C'est quoi ? C'est certes, le mécanisme, ce n'est qu'une partie de la vérité. Il y a quelque chose, effectivement, qui peut être étudié anatomiquement dans les animaux. On peut découvrir des fonctions, des organes qui obéissent à des lois mécaniques, chimiques, etc. Mais il y a quelque chose de magique, c'est le souffle de vie. La preuve, prenez un sac de farine fermé, hermétiquement, rien ne sort, rien ne rentre. Mais au bout de quelques semaines, vous allez voir qu'il va y avoir une apparition de la vie à l'intérieur. C'est pas rare, hein, ça peut vous arriver, hein, vous achetez un sac de lentilles ou de farine et quelques semaines plus tard, le sac est hermétiquement fermé et vous voyez apparaître des larves à l'intérieur. Et donc, il dit ça, c'est la génération spontanée. Et la génération spontanée, c'est quelque chose à laquelle on croyait largement à l'époque. Et on pensait par exemple que dans la boue des fleuves, c'est là que se généraient spontanément les rats, les crocodiles et d'autres animaux qui vivaient dans l'eau. Et on pensait que les animaux mouraient en hiver et que ceux qui apparaissaient au printemps, c'était généré spontanément parce qu'on ne les voyait plus. Certains oiseaux, on ne les voyait plus, on voyait bien qu'ils ne pouvaient pas vivre quand il faisait froid. Et donc on se disait, bah, en hiver, c'est que bah, ils meurent et que d'autres les remplacent en été de manière spontanée. Donc on pensait que aussi les animaux se transformaient radicalement d'une espèce à une autre. Par exemple, il y avait une théorie très en vogue à l'époque, c'est qu'il y a une espèce de canard qu'on appelait les macreuses, se transformait à partir de crustacés qui étaient collés contre les navires. Donc voilà, ces crustacés se transformaient en canards. Et ça, c'était une position officielle de l'Église, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste des hypothèses scientifiques, c'est à la base des hypothèses scientifiques, mais l'Église va les adopter parce que, premièrement, ça permet de montrer qu'il y a de la magie dans la nature et donc que Dieu est derrière, mais aussi ça permet de, comme je vous le disais tout à l'heure, asseoir certains points du dogme. Vous avez par exemple, en 1188, un prêtre qui fait cette découverte à l'époque, cette hypothèse que les canards se transforment à partir des crustacés, et il dit ça, c'est ça qui prouve l'Immaculée Conception. Je ne veux pas vous rentrer dans le détail de l'Immaculée Conception, mais l'Immaculée Conception, c'est l'idée que la Vierge Marie n'est pas concernée par le péché originel, par une espèce de miracle. Eh bien, il dit de la même façon qu'on a des miracles avec les animaux, on a des miracles pour la Vierge. Et ça, ça prouve que voilà, le dogme de l'Église, il est bien assis sur des choses qui sont observables. Et c'est à tel point une position officielle de l'Église que en 1667, lorsque l'Académie de sciences de Caen va sortir un petit fascicule pour expliquer que cette hypothèse ne tient pas la route, eh ben elle va être dissoute, si c'est correct, elle va être dissoute par notamment la pression de l'Église. Donc vous voyez bien que il y a, comme je vous le disais, la tentation de vouloir prendre des hypothèses scientifiques comme des vérités indiscutables et d'asseoir le dogme dessus, ce qui fait que lorsqu'on découvre que c'est pas vrai, ben l'Église est en grande difficulté. Et ben ce vitalisme-là, le fait que la génération spontanée existe, que des animaux viennent à partir de rien, ben, vous connaissez certainement un certain Louis Pasteur qui a découvert qu'en fait, non, il n'y a pas rien, c'est juste qu'on n'a pas les microscopes pour observer. Si vous avez un sac de farine qui est hermétiquement fermé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans, même si vous ne voyez rien à l'œil nu. En fait, il y a des larves, et ces larves sont observables au microscope et ce sont les larves qui se développent et qui donnent les fameuses mouches ou les fameux insectes qu'on retrouve dans les sacs de farine. Par ailleurs, on découvre aussi que les animaux immigrent. Hein. Un jour, on découvre un oiseau qui a une flèche dans le cou, qui l'a atteinte mais qui ne l'a pas tuée, et on se rend compte que cette flèche vient d'Afrique. Et c'est là qu'on comprend que, en fait, finalement, les animaux ne meurent pas tous en hiver, qu'il y a toute une série d'animaux qui vont en Afrique, ce qu'on pensait incroyable à l'époque, et qui reviennent. C'est incroyable, mais c'est pas si mystérieux que ça. Et donc, ça va poser des problèmes. Et les vitalistes vont alors essayer de trouver un autre coin mystérieux, si vous voulez, dans lequel mettre Dieu. Et ils vont dire quoi ? Vous savez quoi ? Ok, la génération spontanée, ça n'existe pas. Mais le fait de dire que les mouches qui sont dans les sacs de farine viennent de larves n'explique pas le mystère plus grand qui est l'existence même de la mouche. Hein. Cette espèce qu'on appelle la mouche, d'où elle vient ? La larve était là, on voit bien, mais d'où vient l'espèce elle-même ? Ça veut dire que les animaux arrivent bien à un moment et ça doit être miraculeux. Genre, par exemple, la girafe n'existe pas et pouf, à un moment donné, elle existe. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut expliquer ça, l'émergence de nouvelles espèces. Parce qu'on voit bien qu'il y a des espèces qui existaient avant, on le voit dans les fossiles, on voit bien qu'il y a des espèces qui existent depuis pas longtemps. Et donc, il faut bien qu'elles émergent à un moment. Et là, vous me voyez venir. Darwin et sa théorie de l'évolution, Mendel aussi et sa théorie génétique, et la combinaison des deux surtout, ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, qu'on appelle plus communément le néodarwinisme. Cette approche synthétique montre que l'espèce en tant que, voilà, l'espèce, la mouche, la girafe, c'est une catégorie mouvante, ok? Quand on dit espèce en tant que, comment dire, dans la vie de tous les jours, quand on dit l'âne, le chien, la mouche, en fait, dans la réalité biologique, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. L'espèce est une catégorie mouvante aux frontières poreuses et par sélection naturelle, par le caractère aléatoire d'une mutation génétique, je ne vais pas rentrer dans le détail, en fait, vous pouvez avoir quelques mouches qui vont un peu changer. D'abord, ça va être des changements mineurs et puis, à un moment donné, elles vont se reproduire entre elles. Elles vont devenir tellement différentes qu'elles ne pourront plus se reproduire avec la souche sauvage originelle et donc elles vont former petit à petit une nouvelle espèce. Et donc en fait, ça n'a pas de sens de dire qu'une espèce émerge d'un coup. Et ça va créer évidemment un clash énorme, peut-être le plus grand clash de l'histoire des sciences, avec l'Église qui va absolument refuser ce point. De l'hypothèse scientifique de Darwin, et il va y avoir cette fameuse division entre, d'une part, les créationnistes qui pensent que Dieu crée les espèces ex nihilo et les darwinistes qui pensent que ce soit Dieu ou pas, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'ils évoluent continuellement, petit à petit, progressivement, sur des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'années. Donc, en fait, ce clash qu'il va y avoir entre les chrétiens et les scientifiques sur la théorie de Darwin, souvent, on croit que c'est parce que l'homme descend du singe ou ce genre de choses. Certes, c'est le cas. Certes, c'est parce que le vitalisme prend un coup. D'ailleurs, le vitalisme va mourir après la théorie de l'évolution. Mais il y a une raison encore liée au point de dogme qui est encore plus importante et qui est assez méconnue. C'est le fait que un point de dogme fondamental de l'Église, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et le péché originel, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez, c'est l'idée que le péché commis par Adam et Hawa, donc Adam et Ève, en fait, ça, c'est ça qui va faire venir la corruption et la destruction et le mal sur Terre. Avant ça, c'était le paradis et il n'y avait aucune souffrance. Or, dans la théorie de l'évolution, on apprend qu'il y a des animaux depuis des millions d'années, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des animaux avant Adam qui déjà connaissaient la théorie de, comment dire, la sélection naturelle et donc la violence, la compétition, la concurrence, le fait qu'un animal mange un autre, le fait qu'un animal plus fort qu'un autre mange et que celui qui est faible meurt. Et ça va à l'encontre du dogme du péché originel. Donc ça, c'est un des points fondamentaux d'achoppement, un des points de tension fondamentaux. Mais voilà, de décennies en des décennies, de débat en débat, une bonne partie de l'intelligentsia chrétienne et même de l'Église s'est rangée du côté des résultats scientifiques parce que il n'y a rien à faire, même si on veut combattre la théorie de l'évolution, il y a des résultats qui paraissent quand même indiquer qu'au moins une partie du vivant obéit à ces lois d'évolution scientifique. Mais, on pourrait se dire, l'espoir est encore là, l'espoir est encore là, il y a de plus en plus de coins mystérieux qui sont découverts, le mystère recule, mais il y a encore un mystère qui n'est pas résolu, c'est l'émergence même de la vie. Ok, la théorie de l'évolution montre comment émergent les espèces les unes après les autres, mais l'ADN, lui, ne peut pas advenir tout seul. Même si on admet que la vie évolue, elle a bien dû démarrer avec une première cellule hypothétique originelle au fin fond d'un océan, il y a 3 milliards d'années, dans une ère volcanique, comment cette première cellule est apparue? Et ça, les scientifiques, ils disent, ils disent pas grand-chose, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. En fait, on n'en sait rien. Y a rien, en tout cas, qui est bien établi. Aucune théorie solide qui fait consensus parmi les scientifiques sur l'émergence de la vie. Et donc là, on a encore un coin de mystère. Et on va mettre l'hypothèse divine dans ce dernier coin. Ce qui nous met face à une incertitude inconfortable. Pourquoi? Parce que ça fait depuis des années que les scientifiques sont parvenus à faire émerger des molécules organiques à partir de molécules minérales. Et les molécules organiques, c'est les briques élémentaires de la vie. Et quid si un jour, peut-être, on ne sait jamais, si un jour les scientifiques parvenaient à faire émerger une protocellule, une petite cellule qui n'est pas encore tout à fait de la vie, mais qui est un petit peu de la vie. Dans ce cas-là, ce qui n'est pas complètement exclu, wallahu a'lam, dans ce cas-là, dans quel coin du mystère encore va-t-on relayer Dieu? Moi, je me souviens à la fac de médecine, parce que j'ai fait 2 ans à la fac de médecine, Je me souviens que le professeur avait mis une slide dans laquelle il mettait, ben voilà, comme ce que je viens de vous faire, hein, la génération spontanée, etc., etc. Et chaque fois, il y avait un petit V à côté pour dire la science a dévoilé ce mystère. Et il y avait le dernier point, c'était l'émergence de la vie. Et là, le professeur avait mis une croix pour dire on n'en sait rien. Et là, moi, je me souviens que pendant ce cours-là, j'étais en mode ah, les scientifiques, on fait moins les malins maintenant, hein, vous savez pas résoudre ce mystère. Et c'est une attitude que j'avais, mais une attitude que, au fil du temps, j'ai commencé à questionner. Tu vois. Parce que je me suis dit, est-ce que cette attitude est vraiment rigoureuse? Premièrement, parce que déjà, quand vous étudiez des cours comme la génétique, la microbiologie, l'embryologie, la zoologie, la botanique, tous des cours que j'ai eus quand j'étais à la fac de bioingénierie et à la fac de médecine, franchement, il y a des résultats scientifiques qui sont tellement solides, tellement costauds que, à tout le moins, on doit être d'accord qu'on ne peut pas balayer certains arguments de la théorie de l'évolution d'un revers de main. Ce serait trop facile. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais aussi, pour une raison encore plus fondamentale, c'est parce qu'un étudiant un peu l'islam, très modestement, je ne suis pas talib ilm, je répète encore, parce que certaines personnes pensent que je suis talib ilm, je suis un modeste itinérant. Mais en étudiant un peu l'islam, et notamment les sciences pendant ce qu'il est convenu d'appeler, vous savez, l'âge d'or de l'islam, je me suis rendu compte qu'on glorifiait cette période de l'âge d'or de l'islam sans en hériter les aspects positifs. Mais qu'en revanche, on a hérité des problèmes et de complexes qui, eux, sont liés à l'évolution de l'Europe post-chrétienne. Alors que rien ne justifie qu'on hérite de ces problèmes-là. En islam, il n'y a pas de clergé avec une église infaillible. Dans le champ scientifique des savants, il y a un effort d'ijtihad, un effort pour découvrir la vérité. Cet effort peut être couronné de succès, ou il peut arriver à une erreur, mais dans tous les cas, le savant est récompensé. Et surtout, si un savant se trompe, il n'entache pas le dogme d'infaillibilité d'un clergé inexistant. Si on prend par exemple l'exemple d'Al-Qurtubi, qui est un grand savant andalou que vous connaissez certainement, il avait comme opinion que la Terre est plate. Aujourd'hui, on sait de sources sûres que la Terre est un globe. Déjà, Al-Qurtubi, c'est pas sa spécialité, la géologie ou la géographie ou l'astronomie. Mais surtout, il est pas infaillible et ça ne remet pas en cause l'extraordinaire travail qu'il a fait sur, par exemple, sur les sciences du tafsir, etc. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de clergé en islam, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consensus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collégialité entre des savants musulmans qui partagent des points communs et qui construisent un dogme, ou en tout cas qui, construisent des sciences islamiques qui permettent de savoir ce que l'islam dit sur tel ou tel sujet, certaines choses qui ne sont pas négociables. Hein. Il y a l'ijma', le consensus, il y a des discussions transdisciplinaires, mais il n'y a pas de volonté de trancher des désaccords scientifiques pour trancher des désaccords scientifiques. Les questions scientifiques en islam sont renvoyés aux experts. Et pas, c'est pas aux savants qui ne connaissent pas la géographie et la médecine de trancher des discussions qui sont en géographie ou en médecine, tant que ça ne touche pas de manière frontale à des dogmes incontestables et incontestés. Et aussi, dans l'âge d'or de l'islam, il n'y a pas une volonté de concordisme, c'est-à-dire de faire concorder des points, des découvertes scientifiques qui, elles, sont contingentes, qui peuvent changer d'une année à l'autre, d'un siècle à l'autre, et des points dogmatiques qui, eux, sont réputés inchangeables. Le dogme islamique, même s'il a fait l'objet d'une construction méthodique petit à petit, il respecte les fondamentaux de l'islam, du Coran, de la Sunna. Et aussi, dans l'âge d'or de l'islam, il y a une grande place qui est laissée à l'observation et à la suspension du jugement. C'est quoi la suspension du jugement? C'est de dire, je vois quelque chose qui me semble problématique, qui me semble étrange, qui me semble paradoxal, qui me semble peut-être contredire certains points de l'islam, mais je le vois de mes yeux, ça fait partie de la réalité observable, je suspends mon jugement, je ne sais pas comment concilier ça avec l'islam. Je vous avais déjà donné l'exemple de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, lorsqu'il avait vu les puits que utilisaient les Thamoud qui étaient de la taille humaine, alors que si on regarde certains hadiths sur la taille d'Adam alayhi salam et la taille de l'homme a dû se diminuer jusqu'à notre époque. Il se dit, normalement, si je prends le hadith tel quel, et vous savez qu'Ibn Hajar, c'est un commentateur réputé de hadith, normalement, à l'époque de Thamoud, les puits devraient être beaucoup plus hauts. Ils devraient être d'une taille, d'une taille qui conviendrait à un humain qui soit à la moitié de la taille entre l'humain actuel et Adam alayhi salam. Mais je ne le vois pas. Je vois qu'ils ont des puits qui sont exactement la même taille que les nôtres. Il fait tawakkuf, c'est-à-dire, il dit qu'on ne peut pas trancher religieusement. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faudra trancher un jour ou pas. Okay. Alors évidemment, c'est pas open bar l'islam, hein. On laisse pas les champs scientifiques comme ça dicter la vérité, contredire des points essentiels du dogme. Mais on comprend qu'il peut y avoir des avancées scientifiques, soit paradoxales, contradictoires, qui sont contingentes, et on laisse la science se faire parce qu'on n'a pas de complexe en fait. On n'a pas peur de découvrir la vérité parce que, comme le dit une fameuse phrase, la vérité ne contredit pas la vérité. Et parce qu'il y a aussi un élément du dogme islamique qui est incontournable, c'est qu'Allah il est omnipotent et il crée et il légifère. Et il organise, et il ordonnance la matière visible comme invisible de la manière dont il le veut, dont il le désire, dont il lui sied. Et ça, c'est un point important du dogme islamique. C'est ce que nous rappelle, par exemple, un illustre savant dont vous avez tous déjà sans doute entendu parler. Il s'agit d'Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Dans son célébrissime Ihya Ulumuddin, il dit une phrase qu'on peut traduire de la manière suivante. « Il n'y a pas d'agent à l'exception d'Allah. » Autrement dit, tout ce qu'on voit autour de nous, en nous, et même ce qu'on ne voit pas, tout est sous la législation directe d'Allah. C'est pour ça que le musulman peut et doit, en fait, faire de la science le cœur léger, parce qu'il ne découvrira rien d'autre que des occasions voulues par Allah. Au pire, il se trompe ou il ne comprend pas, ou d'autres comprennent après lui. Mais ça veut dire que rationnellement, sur base de la connaissance qu'on a de l'omnipotence d'Allah, on sait qu'il est en capacité de faire des choses incroyables, comme des choses auxquelles nous on est habitués. Par exemple, en médecine, quand on a une migraine, on prend une aspirine et on va mieux. En fait, c'est Allah qui ordonne le lien entre la prise des médicaments et l'interruption de la douleur. Si un scientifique découvre que l'aspirine a une action contre la douleur, ça ne diminue pas le pouvoir d'Allah. Parce qu'on ne casse pas, c'est pas comme si on cassait une magie. On met juste en lumière ce qu'on appelle en philosophie une occasion. C'est pour ça qu'on dit que Mohamed Razali est une grande partie de la communauté musulmane dans le dogme est occasionnaliste. C'est ce qu'on appelle une occasion, c'est-à-dire que on ne fait qu'observer des liens simultanés qui se déroulent en même temps entre deux phénomènes, et ces deux phénomènes sont sous la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la pilule qui a un effet magique d'elle-même. Ok, mais me diras-tu, que faire de tout cela? Al-Ghazali a vécu il y a presque 1000 ans, la théorie de l'évolution est toute récente, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'en sort avec tout ça? Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est reprendre son paradigme, et quand je dis son paradigme, je prends Al-Ghazali, je prends un exemple, mais déjà, il est représentatif d'un courant de dogme dans l'islam qui fournit, on va dire, une grande partie de la communauté musulmane, mais aussi, on pourrait prendre d'autres écoles de dogme, et on pourrait arriver plus ou moins à la même conclusion. Mais il faut bien que je choisisse un chemin, et ce chemin que je vais choisir, c'est partir de son paradigme, et on pourrait se dire, on reprend son paradigme, on l'utilise sur la théorie de l'évolution. Alors c'est bien beau ton idée, me diras-tu, mais c'est pas un exercice facile, hein. Pas n'importe qui peut prendre les livres d'Al-Ghazali et essayer d'en tirer des principes et les appliquer sur la théorie de l'évolution, et je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué, mais alhamdoulilah, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et par exemple, notamment ces 2-3-4 dernières années, un certain Ahmed Shoaib Malik, qui a une espèce de triple casquette intéressante, il est PhD, je crois que c'est en chimie, en ingénierie chimique, il est PhD en philosophie de la religion et de la science, et il est également talib al-ilm, donc il a un petit peu un pied dans chaque domaine qui lui permet d'avoir un regard transdisciplinaire et qui lui a permis d'écrire un livre très remarqué. Alors il est en anglais, il s'appelle Islam and Evolution, Al-Ghazali and the Modern Evolutionary Paradigm. Alors il est disponible en libre accès pour ceux qui le veulent, parce qu'il y a un frère qui est très généreux, qui a payé 10 ou 15 000 dollars directement à la maison d'édition en disant je vous paye ça, mettez-le en accès libre sur le site Routledge, une prestigieuse maison d'édition dans le champ de la philosophie et de la religion. Et donc dans ce livre, il fait cet exercice et se dit, si on devait appliquer la vision d'Al-Ghazali sur la théorie de l'évolution, à quelle conclusion pourrait-on aboutir? Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Je vais vous faire une petite synthèse très rapide. Donc premièrement, rationnellement, c'est-à-dire au niveau de la raison seule, on met on va dire le dogme de la religion et les règles de la religion, est-ce qu'on sait de la aqida, etc., de côté, juste au niveau de la raison seule, en sachant ce qu'Allah est capable de faire. Si on prend la théorie de l'évolution sur ses différents aspects, c'est-à-dire rien n'évolue, ou les animaux sont les seuls à évoluer, ou les animaux et les humains sont les seuls à évoluer, sauf Adam, ou Adam lui-même est le produit de l'évolution. Donc, si on prend du point de vue rationnel, et après on prendra du point de vue du din, ok? Donc suivez-moi bien et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc première chose qu'on pourrait avoir, est-ce que la théorie que rien n'évolue, tout advient ex nihilo, de la même façon qu'Adam alayhi salam est créé ex nihilo à partir de rien, ben l'espèce de la girafe et le mammouth et la mouche et les larves et les microbes, tout ça, ça obéit à la même loi, ce qui est en fait la position, on va dire, créationniste, ok? Est-ce qu'elle est rationnellement possible? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait très bien choisir de faire les choses de cette manière-là. Prenons maintenant la théorie qu'il n'y a que les animaux qui évoluent, ok? Donc les humains n'évoluent pas et Adam alayhi salam n'est pas le produit de l'évolution. Est-ce que c'est rationnellement possible? Très bien, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le voulait, de la même façon que s'il le veut, il peut faire en sorte que la pilule guérit la migraine ou que le feu brûle. Il peut faire des occasions où ça se passe ensemble. Il pourrait faire des occasions dans lesquelles, en fait, il y a des processus évolutifs. Il n'y a rien d'irrationnel, en principe. Maintenant, prenons le fait que les humains également évoluent. Est-ce que c'est rationnellement possible? Est-ce que si Allah voulait le faire, il pourrait le faire? Il peut le faire également, c'est tout à fait dans le cadre de la rationalité. Et on va pousser d'un cran plus loin. Si Adam alayhi salam lui-même, Allah voulait faire en sorte qu'il soit le produit de l'évolution, est-ce que c'est rationnellement possible? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent. À part des actes illogiques qui sont dus aux défaillances du langage, il peut faire tout ce qu'il désire. Et toutes ces positions rationnelles, je précise bien rationnelles et pas dogmatiques, ça a donné des positions très différentes. Ça a donné par exemple la position créationniste. Rien n'évolue, comme je vous le dis. Dedans, vous avez des gens comme Harun Yahya, qui n'est pas un savant, mais que vous connaissez probablement, qui est aujourd'hui en prison en Turquie pour 200 ou 300 ans. Il a fait des livres créationnistes. Mais on a des gens plus sérieux hein, qui sont créationnistes, comme le fameux savant Al-Burti, ou on a le philosophe mathématicien perse, Sayyid Nasr, et on a toute une série comme ça d'intellectuels et de savants musulmans qui partagent cette position créationniste. On a également l'élève de Ahmed Didat, Zakir Naik, si je ne m'abuse, qui partage cette position. La deuxième position, celle qui dit en fait les animaux peuvent évoluer, mais pas les humains et pas Adam, ça c'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme humain, c'est-à-dire tout peut évoluer sauf les humains. Ça, c'est la position de Yasser Qadhi que j'ai cité tout au début de cette vidéo. C'est un peu, en tout cas, une des positions que pourrait partager Ahmed Lala du site, du Cheikh Ahmed Lala du site Maison Islam, qui est professeur en sciences islamiques sur l'île de la Réunion. Et donc, ça, c'est l'exceptionnalisme humain. On a aussi l'exceptionnalisme adamique. Cette position consiste à dire les animaux peuvent évoluer, les humains également peuvent être le produit de l'évolution. Il peut y avoir des lignées humaines qui existaient déjà avant Adam alayhi salam, mais qui ne sont pas humains au sens de ce que l'islam nous enseigne. Ça veut dire un peuple qui reçoit un message révélé. Ce sont des lignées humaines anciennes. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme adamique. Les animaux peuvent évoluer, les humains peuvent évoluer, sauf Adam alayhi salam, qui est le premier d'une lignée humaine bien particulière. C'est la position David Suleiman Jalajel, qui donne cours à l'université de Riyad, si je me souviens bien. Je ne sais plus si c'est une position que partage également Ahmed Allah, parce que dans son livre, il me semble qu'il a fait un petit livre, hein, un petit livre assez facile à lire, dans lequel il prend toutes les positions. Il tranche pas, mais il fait comme ce qu'on vient de faire maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire regarder les positions islamiquement compatibles. Et il me semble qu'il dit aussi que c'est possible que, pourquoi pas, les humains évoluent. Je ne sais plus, à vérifier. Mais en tout cas, il est entre exceptionnalisme humain et exceptionnalisme adamique. Et enfin, la quatrième position possible, c'est pas d'exception du tout. Tout le monde est le produit de processus évolutionnistes. Il y a des savants musulmans qui partagent cette opinion, enfin des savants, en tout cas des musulmans, des intellectuels qui partagent cette position, notamment Rana Dajani, qui est une biologiste jordanienne, si je me souviens bien, et on a le fameux Nidal Kessoum, qui est algérien, si je ne m'abuse, qui est un astrophysicien assez connu dans la communauté musulmane. Donc ça, c'est d'un point de vue rationnel. Maintenant, nous dit Ahmed Shoaib Malik dans son livre sur le paradigme d'Al-Ghazali, si on prend le paradigme d'Al-Ghazali, donc on l'a fait sur le plan rationnel, maintenant on le fait sur le plan dogmatique du dogme islamique, notamment sur ce qu'on sait sur la croyance en les prophètes, la croyance dans le Coran et dans ce qu'il dit, dans la littéralité de ce qu'il dit sur ce que nous enseignent les sciences du Coran, etc. Quelle position est possible? Le créationnisme, c'est possible, c'est tout à fait possible islamiquement parlant. L'exceptionnalisme humain, c'est possible, il est possible que les êtres humains évoluent. Il n'y a rien, en tout cas, catégoriquement, qui permet de dire, islamiquement, c'est interdit de le dire. Et même l'exceptionnalisme adamique, nous dit-il, selon lui, même le fait de dire que Adam alayhi salam est le seul à ne pas avoir subi, finalement, des processus évolutionnistes, mais les humains, comme on l'a un petit peu de Néandertal en nous, peut-être qu'en fait, finalement, la lignée, les descendants d'Adam alayhi salam se sont également mélangés à d'anciennes lignées humaines. Mais en tout cas, nous dit Ahmed Shoaib Malik, il y a une chose dont on doit être certain, il n'est pas possible d'avoir la position, pas, ce qu'il appelle « no exception at all », donc pas d'exception du tout, même Adam alayhi salam est le produit de l'évolution. Pourquoi? Parce que le Coran et les hadiths et la sunna et le consensus des savants est extrêmement clair sur le fait que Adam alayhi salam est un être humain créé ex nihilo de la façon dont Allah Azza wa Jal le décrit dans le Coran. Voilà, donc on a un parcours qui est rationnel, un parcours qui est islamique, qui nous permet de défricher le champ Je rappelle, ou en tout cas je précise, que ce vocal n'a pas pour objectif de trancher la vérité, mais de trancher, de défricher le terrain. Et donc on se dirige tout doucement vers la conclusion et la réponse aux deux problèmes que je soulevais au début de ce vocal. Le premier problème, c'était quoi? C'est qu'on a l'impression que les scientifiques, lorsqu'ils lèvent le voile sur un mystère, c'est comme s'ils diminuaient le royaume de Dieu. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est ça la solution à ce premier problème. Il ne faut pas tomber dans ce piège parce que dans le paradigme islamique, on sait qu'Allah, il peut faire advenir les choses qu'il désire de la manière dont il le désire. Si on doit découvrir qu'il y a des mécanismes évolutifs dans le vivant, ce n'est pas plus ou moins incroyable que quand on a découvert qu'il y a, en fait, la génération spontanée, ça n'existe pas, ou qu'en fait, les animaux hibernent, ils apparaissent pas par miracle au printemps, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que lorsque des scientifiques découvrent quelque chose, on ne fait que découvrir des choses qu'Allah Azzawajal a décrétées. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que, en fait, devant les avancées des scientifiques, on a un sentiment de complexe, et donc on essaye de répondre à ça comment? En faisant du concordisme, en essayant de relier le dogme des découvertes scientifiques, en essayant de chaque fois trouver un autre point mystérieux qui n'a pas été encore découvert par les scientifiques pour mettre l'hypothèse de Dieu dedans. Il faut délaisser ce complexe. Pourquoi? Parce que, certes, il faut être conscient des points dogmatiques non négociables, en l'occurrence ici pour le sujet à la théorie de l'évolution, c'est le fait que Adam alayhi salam, c'est un prophète et que donc on peut pas dire qu'il soit lui-même un descendant d'une lignée selon un processus évolutionnaire. Mais le reste est une discussion entre spécialistes sur lesquels, en fait, d'un point de vue islamique, on peut pas trancher catégoriquement et dans lequel tout le monde peut faire des découvertes, peut se tromper, peut discuter, peut débattre. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, ça doit nous rendre sereins et nous faire abandonner cette attitude qui consiste toujours à chercher à contre-attaquer à tout prix les scientifiques, parce que quand on passe son temps à attaquer les scientifiques, c'est qu'on ne fait pas de la science pendant ce temps-là. Ou en tout cas, on fait de la science uniquement pour se déloger de cet inconfort. Et en plus de ça, ça nous met au risque de nous ridiculiser comme l'Église a été maintes fois ridiculisée. Et puis surtout, ce que je trouve vraiment dommage, ça nous fait perdre le plaisir inouï de faire de la science, de découvrir des choses, c'est-à-dire de le faire le cœur léger. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train d'entrer son code à un distributeur de billets, il est mal à l'aise parce qu'il regarde à lui, parce qu'au cas où quelqu'un voit ce qu'il fait, etc. J'ai l'impression que c'est un peu l'image sous laquelle on peut décrire les musulmans qui font la science, mince, qu'est-ce que je vais découvrir, etc. Il faut faire de la science de manière sereine. Nous avons un point dogmatique, Adam alayhi salam, il est... un homme, un prophète qui a été écrit ex nihilo, qui a été écrit de façon miraculeuse par Allah Azza wa Jal. Ça, on est sûr de ça. Sur le terrain scientifique, est-ce que les animaux et les humains ont peu ou prou des processus évolutionnaires en eux? C'est un débat qui est large, c'est un débat qui est ouvert, sur lequel il est difficile de trancher islamiquement et sur lequel le champ scientifique a encore beaucoup de choses à dire. On devrait pouvoir, en tant que musulman, avoir la possibilité d'étudier ça sans être comme cet homme qui regarde derrière lui à chaque fois, qui a peur. De toute façon, les athées nous ridiculiseront toujours pour une raison simple, c'est qu'on pense qu'Allah existe. Déjà, ça leur suffit pour nous regarder de haut. On ne doit pas, calquer notre attitude et nos comportements et notre fierté sur ce que pensent les scientifiques, aussi puissants soient-ils, aussi puissant l'Occident soit-il. C'est un petit peu la conclusion à laquelle je voudrais arriver, c'est un appel à la sérénité. Vous savez que j'ai fait souvent cet appel, je le refais ici. Je sais que certains d'entre vous vont être frustrés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas abordé la question, par exemple, du darwinisme social, l'eugénisme, le darwinisme politique, c'est-à-dire comment est-ce que le darwinisme a été utilisé, notamment par le fascisme, etc. J'ai pas pu aborder ce sujet-là. J'ai pas pu aborder notamment aussi le contenu même de la théorie de l'évolution, ce qui peut intéresser beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire c'est quoi les mutations aléatoires, c'est quoi la sélection du plus fort, ce qu'on dit, la sélection du plus apte, c'est quoi la théorie synthétique, c'est quoi la différence entre la génétique et la théorie de l'évolution. C'est quelque chose qui n'est pas possible de traiter parce que j'ai pas le temps et surtout parce que pour ça il faut des images, il faut du texte, il faut des graphiques. Mais, l'idée me trotte depuis maintenant peut-être un an, deux ans, de faire des cours en ligne qui seront disponibles pour les plus motivés d'entre vous. Il s'agira de partir des textes, d'écrire, de réfléchir, etc. avec des tweets, ce sera interactif, inshallah ta'ala. Et parmi ces cours, je prévois de faire un cours sur la théorie de l'évolution dans lequel justement on abordera cette thématique-là. Et d'ailleurs, par ailleurs, je pense que la prochaine newsletter sur le Quai du Critérium, et inscrivez-vous si vous êtes intéressé, je traiterai de cette question précise du darwinisme social, l'eugénisme, à savoir que dire du darwinisme si on arrive à la conclusion que cette théorie scientifique a donné lieu à des choses abominables sur le terrain politique et idéologique. Je pense que j'ai été largement, beaucoup trop prolixe. Je parle et je ne m'arrête pas. On est à plus de 39 minutes. Je veux m'arrêter ici pour le moment. N'hésitez pas à réagir, à me contacter par les canaux que vous connaissez, Instagram, maintenant TikTok. Vous pouvez me contacter par TikTok également, en réponse à mes newsletters. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Nous pouvons avoir un désaccord sur ces questions, il n'y a pas de problème. Tout doit se faire dans la politesse. Je ne prétends pas avoir découvert une quelconque vérité. Je ne fais que venir avec ce que j'ai découvert dans le champ scientifique religieux et je vous les propose de manière vulgarisée. Qu'Allah vous préserve. Au plaisir, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.